Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Isabelle Cussac. Bonjour Isabelle.
Bonjour Raphaël.
Fondatrice de Génération & Co, vice-présidente de FCE Paris. À vos côtés, André Lezecroux-Pietri. Bonjour André.
Bonjour Raphaël.
Président de JEDI, l'agence européenne pour l'innovation, et Eric Heyer. Bonjour Eric.
Bonjour Raphaël.
Directeur du département analyse et prévision à l'OFCE. Alors, je voulais qu'on commence par ce texte qui fait beaucoup de bruit, à la fois du côté patronal et du côté des syndicats. Jean-Pierre Farandou, le ministre du Travail, a promis de transférer le projet de loi qui va transcrire cette directive au Conseil d'État. C'était hier soir, mais d'ores et déjà, 5 organisations représentant les entreprises du Mittelstand européen, grosso modo les ETI, co-signent un courrier pour demander aux autorités européennes et françaises une suspension de la directive relative à la transparence salariale. Je voulais d'abord, allez Eric, je commence avec vous, comprendre pourquoi il y a autant de tensions autour de ce texte. A priori, transparence salariale, on peut être que pour. Pourquoi le patronat est vent debout là?
À cause de l'usine à gaz, vous l'avez un peu dit, effectivement, ça met des nouvelles normes, mais vous avez raison de dire que normalement, le patronat devrait être pour. Vous voyez, le patronat, si je caricature un peu, est pour le marché, d'accord? Oui. Et pour que le marché soit en concurrence, et pour qu'il soit en concurrence pure et parfaite, bah, on a appris qu'il y avait 5 conditions, et parmi les 5 conditions, bah, il y avait la transparence. Vous voyez, si vous voulez, si vous vous dites, d'un point de vue très libéral, que oui, finalement, la valeur se crée dans l'entreprise, il faut bien que, du coup, on partage la valeur dans l'entreprise. Et donc, les salaires doivent bien être négociés en toute transparence. Et donc, il est évident que le rapport de force entre l'employeur et l'employé, c'est là où se décide, et ben, pour que ce rapport de force soit équilibré, ben, il faut que l'information soit parfaite. Et donc, il va falloir de la transparence. Alors, bien sûr que la transparence, ça veut pas dire que tout le monde...
Ça peut créer quelques frictions.
Mais oui, mais parce que on confond transparence et on veut que tous les salaires soient égaux. Non, ça veut pas dire ça. C'est-à-dire que vous pouvez justifier pourquoi un collaborateur est mieux payé que l'autre.
Oui.
Mais en toute transparence, essayez d'expliquer, voyez, que, eh ben, un tel est meilleur que un tel à compétences et à poste identique. Ça, mais vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il faut pas de la transparence. Si, vous voyez. Donc, il en faut de la transparence. C'est comme ça qu'il y aura une plus grande circulation de la main-d'œuvre aussi dans les entreprises. Donc, en fait, il faut être pour la transparence parce que, vous voyez, c'est dans l'opacité que, finalement, les inégalités se nourrissent et donc on a...
Oui, créer des crispations aussi.
Et donc, il va falloir cette transparence, ça, c'est inévitable.
Isabelle Cussac, on a une chef d'entreprise autour du plateau, vous allez être directement impactée
par
cette directive. Alors, comment vous voyez ce texte?
Moi, j'ai envie de dire... Bienvenue à toutes les entreprises qui n'attendront pas cette directive pour la mettre en place.
Ah, il faut anticiper.
Parce que ça va, mais c'est plus que ça, c'est que ça va créer un avantage pour ces entreprises-là. Parce que vous l'avez dit, tout le monde ne peut être que pour. Ça invite à passer d'une défiance généralisée au sein de l'entreprise sur ces sujets à une concertation autour d'une nouvelle façon de faire confiance. Et donc, c'est passé quand même d'une culture très française quand même, très implicite du salaire, à une culture explicite. Et là où je vous rejoins, c'est que ça invite à véritablement objectiver ce sur quoi on détermine qu'un tel est meilleur qu'un autre. Parce que la directive n'interdit pas de rémunérer différemment. Simplement, elle impose de dire... Qu'est-ce qui fait que celui-là, je vais le rémunérer davantage, je vais le récompenser davantage? Donc, qu'est-ce qui crée de la valeur? Et là, ça pose une autre question. Parce que la valeur, c'est pas uniquement la performance financière. C'est aussi la capacité à participer de la robustesse de l'entreprise, au sens large, de sa capacité à résister aux fluctuations, à créer de la relation, à créer du lien. Et ça, aujourd'hui, on sait pas bien le valoriser. Donc, on sait pas bien le monétiser. J'ajouterais que derrière ce sujet de la transparence salariale, il y a évidemment le sujet de l'égalité.
Ben, l'égalité homme-femme, bien sûr.
Évidemment. C'est... Et aujourd'hui, il y a, dépendant du nombre d'heures, grosso modo entre 14% et 22% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des progrès sur les droits des femmes, ça a touché l'intégralité de la population. Donc, nous avons un intérêt collectif, patron, salarié, corps social, à dire à ces entreprises, on est bien d'accord, ça sera une usine à gaz, le contexte économique fait qu'aujourd'hui, elles ont potentiellement autre chose à faire. Mais engagez tout de suite le travail, sans attendre, parce que vous allez créer la différence.
André,
Oui, alors d'abord peut-être juste sur les chiffres. Moi, j'ai regardé le chiffre sur l'écart salarial. En France, effectivement, quand on voit les chiffres bruts, il est de 22%. Mais quand on le corrige de postes équivalents, on est à 5, entre 5 et 9% d'écart entre les hommes et les femmes. En Europe, c'est 11%. Donc, en France, on est plutôt bon élève. Évidemment, on
peut 11%, il y a encore des marges de valeur. Alors moi, j'avais 3 à 4%. J'avais 3 à 4% en tête. On va y revenir.
On n'est pas à 22%, juste pour préciser ça. Parce qu'il faut comparer les postes équivalents. Ensuite, le fait que les femmes soient pas à des postes équivalents.
À poste et à temps complet équivalent.
Les deux sujets qui, je crois, expliquent la crispation du patronat, c'est que, à nouveau, on va sur-transposer. L'Europe impose que la limite soit à 100 personnes et plus. Là, la France va descendre à 50 personnes. Donc, ça couvre un grand nombre de PME et d'ETI de plus. Et deuxième chose, je crois qu'on augmente le nombre de critères. L'Europe voulait 5, la France en imposera 7. Donc le vrai risque ici, c'est de se retrouver, évidemment on est pour cette évolution, mais se retrouver en fait avec un désavantage compétitif par rapport à nos partenaires européens. Ça c'est quand même...
Ce qu'on fait régulièrement, hein, ce qu'on appelle le gold plating, c'est-à-dire qu'on rajoute des couches.
Donc ça c'est vraiment, c'est une question de pouvoir, de nos administrations qui ont envie de contrôler plus. La deuxième chose qui, je pense, c'est quand même une histoire de pragmatisme. Tout ce que j'entends évidemment fait sens, on ne peut que être pour. Mais dans la pratique aujourd'hui, vous savez, ça me fait penser aux discussions qu'il y a sur les biais sur l'IA, comme quoi l'IA aurait des biais. Oui, mais d'abord, les humains ont des biais et depuis la nuit des temps. Et ça va être très difficile de les enlever. Et ici, le fait qu'on ne comprenne pas que quand on recrute, je donne un exemple aujourd'hui, un data scientist en février ou en mai 2026, c'est beaucoup plus compétitif que de le recruter il y a encore 2 ans. Si on met une transparence apparente en disant mais attendez, pourquoi lui vous l'avez payé 3 fois plus, parce qu'aujourd'hui il faut payer pendant 3 ou 4 fois plus que ce que le même poste, la même personne il y a 2 ans, ça semble aberrant. Ça va être très difficile à expliquer, sauf par le fait que dans les circonstances. Et c'est ça, je pense, une démonstration que ceux qui font nos lois sont souvent très 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 éloignés de la compréhension microéconomique de comment ça fonctionne.
Il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise à l'Assemblée nationale, effectivement. Je voulais qu'on revienne quand même précisément sur ce point de l'écart salarial homme-femme, qui est un véritable débat, un irritant majeur. Je voudrais qu'on objective les chiffres. Éric Heyer et ensuite Isabelle.
En 2023, donc les derniers chiffres, c'est 2023. Ouais, l'écart de revenus annuel, c'est 22%. Alors, c'était 40% il y a 30 ans. Donc, ça va mieux. On passe de 40 à 22.
On l'a divisé par 2.
Moi, je veux dire... Après, il y a deux autres chiffres, il y a 14% et 3,8. Alors, c'est quoi le 14%? C'est si vous prenez en compte la durée du travail. Effectivement, les femmes sont plus à temps partiel ou ne travaillent pas. Et donc, bien sûr, quand vous ramenez à l'heure, c'est 14%. Et quand vous prenez en compte le niveau hiérarchique, le secteur d'activité, etc., vous tombez à 3,8. Et ces 3,8 s'expliquent, même on arrive même à les expliquer, parce que en gros, entre un homme et une femme, vous voyez, l'emploi, c'est pas uniquement le salaire, c'est aussi la distance. Les femmes préfèrent un peu moins être payées un peu moins, mais faire moins de distance, etc. Bon, on arrive quasiment à tout expliquer. Ça veut pas dire, quand vous expliquez tout, qu'il y a pas de
choses. C'est ça la grande question.
Mais parce que je pense que le vrai chiffre, c'est 22%. Pourquoi le temps partiel il est féminin en France? Pourquoi c'est la femme qui garde plutôt les enfants et donc qui ne travaillent pas? Donc dire mais on sait l'expliquer, donc en fait il n'y a pas de problème, à mon avis, non, le problème est en amont. Oui, pourquoi les femmes ne vont pas dans l'industrie? Pourquoi les femmes n'accèdent pas au poste de direction? Pourquoi les femmes sont à temps partiel? C'est ça qu'on devrait dire. Et donc c'est le 22% qui, à mon avis, est le bon chiffre, d'accord? Ça montre bien qu'elles ne sont pas complètement égalitaires sur le marché du travail, et donc à mon avis c'est ça le bon chiffre. Donc il y a eu des progrès, mais il reste encore de grandes différences entre les hommes et les femmes.
C'est vrai qu'il y a évidemment la place dans la hiérarchie de l'entreprise. Il y a beaucoup moins de femmes présentes dans les comités de direction que d'hommes. Et effectivement, le temps partiel qui renvoie aussi à les familles, Isabelle.
Ça parle complètement de la structuration de notre monde du travail. Et effectivement, d'une structuration qui est héritée. Il ne faut quand même pas se voiler la face, grosso modo. Les femmes ont investi le monde du travail à partir des années 80. Voilà. Donc, d'abord, pour une contrainte économique. Elles ont gagné leur émancipation parce que crise, au départ. Donc, il y a effectivement un effet de ciseau qu'on doit opérer. Vous l'avez dit, moi, je suis vice-présidente de FCE Paris. FCE, c'est le réseau...
FCE, c'est Femmes Chefs d'Entreprise.
Exactement. Qui a été fondée en 45 par une femme extraordinaire. Donc, elle a 80 ans, ce réseau, quand même. 80 ans. C'est plus de 5 millions de femmes dans le monde. Donc, c'est énorme. Et effectivement, Notre ambition, c'est de motiver un maximum de femmes, non seulement à créer leur entreprise, mais à créer des entreprises dans l'industrie, dans l'agriculture, dans des domaines dans lesquels il n'y a pas assez de femmes.
Oui.
Et ce qu'on observe, c'est quoi ? C'est que ces femmes-là, bah, elles n'ont pas le même raisonnement quand il s'agit de mettre des femmes à la tête dans un board, à des fonctions qui sont dites des fonctions masculines. Donc effectivement, il y a des moments où on apporte des mauvaises réponses à des questions qui ne sont pas tout à fait les bonnes. Peut-être que cette directive, elle ne répond pas tout à fait à la bonne question qui est la structuration du monde du travail. Et donc, on doit aller dans tous les sens. C'est pour ça que une organisation comme FCE a vraiment son rôle, parce que chef d'entreprise, c'est, ça dit ce que ça veut dire. Hein, voilà.
Ben oui.
On doit travailler au niveau de l'éducation nationale. Moi, je suis atterrée de voir que le nombre de filles qui prennent des spécialités maths et physique a été divisé par deux depuis la réforme Blanquer.
C'est un sujet majeur.
C'est incroyable.
Merci, la réforme Blanquer.
Voilà.
Une catastrophe
je suis atterrée
absolue.
De voir qu'au dernier Vivatech, conférence sur l'IA, aucune femme. Réponse à la question pourquoi il n'y a pas de femmes, elle n'était pas disponible. Mais moi, je leur en donnais 50 sur un plateau, dont la vice-présidente de la CPME. Donc, il y a un endroit où tous ensemble, y compris les médias, on doit faire l'effort d'augmenter la représentation des femmes dans ces différents secteurs pour donner envie aux femmes d'y aller et pour montrer aux hommes bah, qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Donc, je reviens sur ce que je disais. Il y a des entreprises, je pense à une entreprise qui s'appelle Clinitex, dans le nord de la France, qui est une entreprise familiale, qui est un sujet qui m'a beaucoup occupée, qui pratique la transparence salariale depuis 20 ans.
Oui.
Et ça se passe super bien. Et ça occasionne quoi ? Une meilleure responsabilisation des collaborateurs, un meilleur échange, etc. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est fait à l'échelle de l'entreprise, de son secteur, de ses contraintes et en coopération.
Oui.
Donc, voilà.
En bonne entente, quoi. Donc, on peut avoir une sortie par l'eau. La grande question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un nivellement par le bas ? Est-ce qu'on ne va pas tuer l'incentive en nivelant l'ensemble des salaires ensemble ? Est-ce qu'on aura toujours la possibilité de payer mieux ceux qui sont meilleurs ? Parce que tout le monde n'a pas la même performance au sein de l'entreprise.
Mais qu'est-ce que vous appelez
non
meilleur ?
Plus, Eric
Théière. Il faut vraiment s'entendre sur ce qu'on appelle meilleur.
Mais ça se quantifie. On est d'accord.
Ah bah non.
Je suis désolé.
Ah bah non.
Je suis désolé. Ben, on va parler, tout le monde a les mêmes qualités.
Le sujet suivant, c'est la productivité.
Oui, on va y venir.
Ok. Donc, non, vous voyez, la théorie, elle est assez simple. Hein. Vous payez les gens à leur productivité. Plus vous avez une forte productivité, plus, finalement, dans le partage valeur, le salaire peut le compenser. Mais vous voyez, moi, d'abord, je pense qu'on ne sait pas mesurer la productivité individuelle. Déjà, on a du mal à mesurer la productivité macro, mais alors individuelle, c'est quand même très compliqué. Vous voyez, premièrement. Et
mais
deuxièmement,
Eric Ayer, pardon, je suis manager dans une entreprise. Oui. Je vois quand même ceux qui bossent plus ou ceux qui bossent moins. Je pense que les managers peuvent le sentir à peu près, non ?
Non, mais peut-être que vous allez. Ok. Non, mais vous pouvez un tout petit peu le dire. Mais est-ce que, justement, le manager. Enfin, voilà, c'est, pourquoi il arrive à faire monter ses équipes ? Parce qu'il a des bonnes équipes ? Est-ce que c'est lui qui manage bien ou est-ce que c'est le N plus 1 qui l'aide ? Oui, c'est quand même très compliqué de dire dans l'entreprise qu'est-ce qui est dû à toi, qu'est-ce qui est dû à toi, de façon très précise. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas et qu'on. Mais oui, ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'on doit vraiment payer à la productivité ? Vous voyez, ça, c'est quand même une autre question. On a bien vu pendant la crise sanitaire, d'accord, qu'il y avait des emplois qui étaient très utiles, qui n'étaient pas productifs, mais extrêmement utiles à tout le monde. Et si moi, j'étais productif, c'est qu'il y avait des gens qui ont été très utiles pour ma productivité. Est-ce que c'est à moi récupérer toute cette productivité ou dire grâce à ton utilité, d'accord, j'ai réussi à être productif. Et vous voyez, c'est tout ce qu'on appelait les travailleurs de première ligne. On a dit mais heureusement vous étiez là pour faire tourner la machine et ils ont pris des risques parce que eux ils n'étaient pas confinés, ils étaient obligés d'y aller. On ne savait pas. Nous on était restés bien au chaud à faire du télétravail. Est-ce que on a aidé ces personnes-là ? Est-ce qu'on a dit il faut les payer à leur utilité, non.
Donc, on les a applaudis aux fenêtres, mais c'est
exactement.
Vrai que les salaires n'ont pas beaucoup progressé.
Et continuer à payer à leur productivité qui est relativement faible, alors qu'en fait, ils sont très utiles. Donc, vous voyez, allez, on arrive à se dire, bien sûr qu'il faut de la transparence, mais voilà, je veux augmenter ces personnes qui ne sont pas très productives, mais qui sont très utiles. Vous voyez, ça ne veut pas dire que tout le monde sera au même niveau. Ça veut dire qu'on doit justifier pourquoi on paye plus ou moins un collaborateur. Je trouve ça, moi, normal. Et au contraire, vous voyez, moi, j'essaye dans notre entreprise, dès qu'on a quelqu'un qu'on veut valoriser, on le crie fort. On dit, regarde, on a valorisé cette personne-là. On le fait pas en douce. On dit, mais regarde, c'est ça qu'on veut. On veut que des personnes travaillent comme cela. Et ben, donc, il faut le dire, il faut le clamer, et il faut que ça soit donc transparent. Mais, et à mon avis, c'est mieux.
André Le Scoop,
mais je crois qu'en écoutant Eric, je peux que être d'accord, mais je constate deux choses. Un, c'est qu'en fait, cette notion, on a beaucoup de mal à valoriser dans nos sociétés tout ce qui a en fait un impact long terme et systémique.
Oui.
Et donc on est vraiment, parce qu'effectivement si on voit des choses uniquement au taux horaire, bah finalement un chercheur, un instituteur, sa productivité, on va dire à l'heure, est probablement négligeable, mais son importance sociétale sur 5, 10, 15 ans, le fait que certains certains comme vous dites du premier rang nous aient permis de tenir en tant que société, qu'il n'y ait pas eu un écroulement de tous nos services publics, etc., c'est quelque chose qu'on a du mal à valoriser. Donc je pense que on a quand même des outils qui sont extrêmement archaïques. Deux, en écoutant Eric, je me rends compte quand même que c'est essentiellement au niveau de l'entreprise qu'on est capable de valoriser, merci, d'identifier. Et c'est là où je me dis, je suis toujours réservé quand je vois qu'on essaye de plaquer une mesure, une métrique très bureaucratique à l'ensemble des collaborateurs. Parce que une PME en province va réagir de manière totalement différente qu'un grand groupe international qui lui-même aura à gérer aussi l'équilibre au sein de ses cadres internationaux. Donc imaginez la différence qu'il va y avoir entre la France, les autres pays européens, la France. Donc, je pense effectivement le sujet essentiel, c'est la confiance. Inciter que ce genre de débat amène le débat sur la table et que ça valorise les entreprises qui ont cette approche. Ensuite, uniquement juger les entreprises par leur capacité à respecter les règles, ça risque en plus que de créer en fait des effets d'aubaine, des gens qui vont faire les bons élèves, et on connaît tous que les bons élèves en classe sont pas forcément ceux qui seront ensuite les plus
performants. Oui, Isabelle, on peut se dire qu'on peut laisser faire le marché, que si les salariés ne sont pas heureux dans une entreprise, ils s'estiment mal payés, ils peuvent aussi aller ailleurs et faire confiance au manager de l'entreprise pour gérer correctement tout ça sans besoin d'un texte législatif qui vienne de Bruxelles ou de Paris.
Ouais, oui et non, je dirais, et en fait ce qu'on observe là, c'est qu'il y a un double mouvement à opérer. Un mouvement sur qu'est-ce qu'on compte, qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qui compte, en fait. Dernièrement, il y a un opérateur que vous connaissez peut-être, qui est l'opération Milliard, qui a sorti un rapport sur comment est-ce qu'on mesure la valeur sociale. Extrêmement intéressant. Vous avez des gens comme Alexandre Rambaud qui parlent de la comptabilité en triple capital. Et donc, ça intègre ces notions-là. Qu'est-ce que c'est la valeur ?
C'est un vrai débat.
Quand je suis dans l'entreprise et que je contribue au fait qu'elle résiste davantage au choc, donc à sa robustesse, donc à sa structure, je ne suis pas en train de produire. Donc, ma productivité, ma contribution au résultat financier, elle est beaucoup moins mesurable. Aujourd'hui, on rémunère uniquement cet aspect-là. Et donc, forcément que les gens ne comprennent pas dans l'entreprise, parce que leur investissement, il n'est pas juste comparable à la capacité à fournir du résultat en valeur. Donc, il y a cette question-là. Et il y a un consensus dans la société, aujourd'hui, au niveau des collaborateurs, pour travailler sur cette question de la valeur. Et on se met d'accord sur comment est-ce qu'on considère qu'on produit de la valeur systémique, à quel terme, et à ce moment-là, on peut expliquer beaucoup plus facilement comment on rémunère. Deuxième chose, l'institution aujourd'hui, elle doit aussi aller dans cette direction-là. Et donc, elle doit passer de ce rôle descendant à un rôle de facilitation. Donc, poser le minimum, qui est le minimum sur lequel tout le monde doit s'entendre, et à partir de là, ouvrir le champ de la liberté. C'est pas ce qu'elle fait. Donc, elle observe des oppositions.
Juste Ravel, vous avez dit, il faut laisser faire le marché, encore une fois. Si vous voulez faire que le marché soit optimal, il faut bien que l'information soit bien parfaite et transparente. Et donc, comment fait-on si tous les avancements se font juste de façon...
Dans la coulisse, dans l'ombre.
Donc, il va bien falloir, au contraire, plus de transparence. Alors, qu'il y ait de la réglementation, c'est vrai que c'est... On aimerait que ça soit sans réglementation.
Réglementation minimum,
le début de la réglementation, et ensuite, il y a des pratiques, et c'est ces pratiques dans les inégalités hommes-femmes. Heureusement qu'à un moment, on a mis un sort de volonté de
faire... Oui, parfois, la loi Copé-Zimmermann pour mettre 40% de femmes dans les bords.
Début, parce que oui, ça ennuie, il va falloir qu'on mette autant d'hommes, autant de femmes, etc. C'est des règles qui sont ennuyeuses au début, mais après, on voit dans la pratique, ça va tout seul et on peut lever après la réglementation quand il y a autant d'hommes que de femmes dans les comités d'administration, admettons.
Oui, mais ce qu'on veut, ce n'est pas des tableurs Excel.
Isabelle.
Par rapport à l'égalité salariale, le risque quand on met trop de réglementation, en tout cas quand elle est trop figée, rigide, en silo, on obtient des tableurs Excel et à l'intérieur de l'entreprise, on crée encore plus de conflits. Aujourd'hui, on est dans une société conflictuelle. Les Français disent que l'entreprise est encore le dernier endroit oui. dans lequel ils se sentent contribuer à quelque chose, dans lequel ils peuvent avoir confiance, il y a assez de rationnel, etc. Donc, par pitié, n'en rajoutons pas. Mais mettons-nous d'accord collectivement sur le socle sur lequel personne ne peut revenir. Et à partir de là, laissons la liberté à chaque branche.
À chaque entreprise ou chaque branche de construire.
En coopération oui. et en concertation.
Mais je pense que c'est quand même cela. Je ne me sens pas que dans la directive, tout le monde doit être payé de la même manière. Non. On accepte qu'il y ait des écarts. Il faut juste, à expliquer. Partir de 5%, me semble-t-il, justifier pourquoi un collaborateur qui a les mêmes compétences qu'un autre, a priori, est payé plus de 5%. Mais on ne dit pas, il faut que tout le monde soit en dessous de 5. Il faut juste le justifier. Je pense que on n'a aucun problème à justifier des augmentations de salaire et en disant voilà, c'est ça que j'essaye de promouvoir dans mon entreprise, ce type de valeur. Et ben voilà, tu es mieux rémunéré. Donc moi, je vois pas tellement le problème. À part oui, bien sûr, ça va faire plus de demandes et donc bien sûr que les salariés vont demander dans un premier temps, avoir on explique pourquoi on est moins bien payé qu'un autre. Mais bon, c'est le rôle du manager de l'expliquer.
En sachant qu'on est bien d'accord, ce texte ne promet pas de vous donner le salaire de votre voisin.
Mais bien sûr que non.
C'est anonymisé.
Mais la réalité, c'est que je pense que dans beaucoup d'entreprises, on ne sait pas pourquoi on paye plus un tel ou un tel.
Oui, mais ça,
et
c'est,
donc, c'est ça le sujet. C'est pour ça que je parlais de passer d'une culture du salaire implicite à une culture du salaire explicite. C'est au bénéfice de tout le monde si on le fait correctement.
Ce sera le mot de la fin, on va se couper.
Enfin, il y a quand même, ça va
limiter. Non, c'est pas le mot de la fin.
Ce qui se passe dans la machine à café. Mais enfin, vous voyez, dans la machine à café, il y a quand même des, on entend des choses qui sont hallucinantes.
On
invente
aussi.
Des chiffres, on invente des salaires de collaborateurs. Vous voyez, si on pouvait faire taire un peu tous ces fantasmes de, attention, il y en a un qui est payé deux fois mieux parce que c'est le copain d'un tel, etc. Ben, moi, je pense que ça limiterait un peu toute cette notion-là et on parlerait un peu plus de travail.
Et on parlera productivité après la coupure publicitaire avec la révision des chiffres de la croissance 2023 majeure et 2024. Il y a peut-être un autre narratif autour de l'histoire économique de la France ces dernières années qui va monter. Et puis on reviendra sur le paquet de souveraineté numérique qui a été présenté la semaine dernière par la Commission européenne. L'Europe peut-elle sortir de la colonisation américaine en termes de services numériques? Et puis, si on a le temps, on touchera un mot du deal SFR pour voir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les consommateurs et pour l'économie. Ne quittez pas, on se retrouve tout de suite.